Le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, vos réactions sur l'initiative de Macky Sall pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine pour favoriser, dit-il, le dialogue et parvenir à la paix. C'est la position africaine, a-t-il insisté. L'Afrique qui, depuis le début du conflit, depuis maintenant 3 mois, s'en tient tout de même à une certaine neutralité. On l'a encore vu en mars dernier lors du vote de la résolution de l'ONU condamnant l'agression russe. Eh bien, la moitié des pays africains s'est abstenue de voter. Alors, quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans la résolution de cette guerre? L'Afrique peut-elle réussir là où l'Occident a pour l'instant échoué? On en parle ce matin, c'est notre débat du jour. 33 9 693 693 70 et vous réagissez évidemment comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. D'abord, c'est votre rendez-vous privilégié. Vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On se fait évidemment un plaisir, comme tous les matins, de vous répondre en direct. On va commencer avec Mamadou. Il est à Dakar, au Sénégal. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Bienvenue à Dakar, précisément au Cap Skirring, dans les foins de la Casamance.
Ah, donc vous n'êtes pas à Dakar, vous êtes à Cap Skirring alors?
Oui.
Ah, d'accord. Non, c'est très bien de le préciser. On salue tous ceux qui nous écoutent, évidemment, à Cap Skirring. Mamadou, vous avez des questions sur la propagation de la variole du singe dans le monde?
Oui. Alors, Juan, ces dernières semaines, la variole du singe a été détectée dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique où le virus n'est pas endémique. Initialement, cette maladie se transmettait uniquement de l'animal à l'homme. Alors, Juan, que sait-on de... des nouvelles voies de contamination?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Simon Rosé, journaliste au service sciences de RFI, a tous les éléments pour vous répondre. Il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment sur la façon dont les 131 cas confirmés et les 106 autres présumés ont été contaminés. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan, bonjour Mamadou.
Merci d'être avec nous. Mamadou le rappelait à juste titre, habituellement ce virus est transmis à l'homme par l'animal. Quid de tous ceux qui sont contaminés depuis le début du mois un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis?
Parce qu'on savait qu'il y avait des transmissions interhumaines, hein, tout de même. C'est assez mal connu, la variole du singe. C'est une maladie qui a été très peu étudiée. On a très peu d'infos. On sait que les contacts prolongés, notamment via les fluides, les salives, les muqueuses, peuvent participer de cette transmission interhumaine qui a l'air tout de même assez limitée. Mais comme je disais, c'est assez mal connu. Il y a une composante, par exemple, de transmission par voie orale, par les aérosols, les fameux aérosols dont on entend beaucoup parler par le Covid. Quel est son pourcentage d'importance, entre guillemets, dans ces moyens de contamination, on ne sait pas, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Donc ça, malheureusement, Mamadou et Erwan, je ne peux pas vous apporter beaucoup plus d'éléments sur les mécanismes précis, mais on sait en tout cas que ce phénomène de contamination interhumaine, il existe pour la variole du singe.
Ouais. Vous avez d'autres questions, Mamadou?
Oui, bien sûr. Existe-t-il des traitements ou des vaccins contre cette maladie et peut-on craindre une nouvelle pandémie?
Alors Simon Rosé, on rappelle déjà les symptômes de la toux, de la fièvre, des douleurs musculaires, gonflement des ganglions et puis développement d'une éruption cutanée qui commence souvent par le visage et puis ensuite ça s'étend un peu partout sur le corps, notamment sur les mains et les pieds. Simon Rosé, est-ce qu'il existe des traitements?
Non. Non, c'est une maladie dont, comme je disais, qu'on connaît très mal, donc il n'existe pas de traitement. Mais dans l'absolu, c'est pas si grave, j'ai envie de dire, parce que c'est une maladie qui guérit tout seul et qui est dans la grande majorité des cas bénigne. Cela dit, on parlait du vaccin, on peut utiliser le vaccin qu'on utilisait contre la variole humaine cette fois. Il y a une sorte d'immunité croisée qui se fait et il protège dans une certaine mesure contre la variole du singe. L'idée, là, si on fait appel à ce vaccin, c'est de l'utiliser en fait en cercle concentrique. C'est pas de vacciner toute la population comme on l'a fait contre le Covid-19. Là, c'est les personnes qui sont en contact avec quelqu'un qui a été malade. On va vacciner ce premier cercle. S'il y a des cas un peu plus à risque autour d'eux, on va vacciner ces personnes. C'est vraiment, on raisonne en cercle concentrique et pas vaccination de l'ensemble de la population.
Et c'est d'ailleurs ce que préconise depuis hier en France la Haute Autorité de Santé, qui recommande donc la mise en place d'une stratégie vaccinale pour les cas contacts. Doit-on s'attendre à une pandémie ?
Alors, a priori non, parce qu'on n'est pas du tout sur la même chose, les mêmes modes de transmission que le Covid-19, hein, parce que c'est à ça que tout le monde pense. Le Covid-19, il faut bien avoir en tête que c'est la maladie parfaite pour déclencher une pandémie mondiale. Ça se transmet par voie respiratoire, un temps d'incubation assez court, un gros taux de reproduction, ce R0 dont on vous abreuve depuis des années, c'est combien de personnes une personne malade va pouvoir contaminer. Et surtout avec le Covid-19, c'est qu'on est contagieux avant d'avoir les symptômes. Donc c'est super traître comme moyen de transmission. Pour la variole du singe, ce n'est pas le cas. On aura des symptômes avant d'être contagieux. Et vu que les symptômes sont quand même très visibles et très reconnaissables pour la variole du singe, on peut mettre les personnes à l'isolement pour éviter qu'elles n'en contaminent d'autres. Donc, a priori, il y a peu de risques et les autorités sanitaires se veulent rassurantes, qu'elles soient régionales ou mondiales. On ne va pas vers une nouvelle pandémie. Encore une fois, c'est une maladie qu'on connaît peu. Mais de ce qu'on en sait aujourd'hui, rien ne permet d'infirmer qu'on va vers une pandémie mondiale similaire à ce qu'on a connu avec le Covid-19 et le coronavirus.
Mamadou, à Cap Skilling, oui. A-t-on répondu à votre question, à vos questions ?
Oui, bien sûr. Merci à vous, merci à toute l'équipe et merci à Simon Rosé d'avoir répondu à mes questions.
Journaliste au service sciences de RFI. Bonne journée Simon Rosé, merci Mamadou et continuez à nous écouter. Rappelez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Hier, rappelez-vous, si vous avez écouté l'émission, on avait eu Gabriel. Gabriel qui était à Bukavu, il voulait poser des questions concernant le forum qui s'est tenu il y a quelques jours au Katanga. Le problème, c'est que Denise Maheu, notre correspondante de RFI à Lubumbashi, ne parvenait pas à se connecter. Eh bien, aujourd'hui, c'est Gabriel que nous n'arrivons pas à avoir au téléphone. Je vais quand même me faire son porte-parole, puisque on s'est engagé hier à répondre à ces questions, ce forum pour l'unité de la réconciliation des Katangais. De ce forum, on a surtout parlé, rappelez-vous, de la poignée de main très médiatisée entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, mais il s'est dit des choses durant ces quatre jours concernant la réconciliation du Katanga. Donc Gabriel veut savoir quel bilan peut-on dresser de ce forum, et le Katanga, qui est divisé en quatre provinces depuis maintenant sept ans, pourrait-il de nouveau être unifié ? Question pertinente, évidemment. Bonjour Denise Maheu.
Bonjour Juan.
Correspondante de RFI à Lubumbashi. Peut-être pour commencer, dites-nous comment s'est déroulé ce forum et qui étaient les participants.
Eh bien Juan, le forum sur l'unité et la réconciliation, comme vous l'avez dit, la réconciliation de Katangé a été organisée par l'Église catholique de Lubumbashi et le thème était « Frères un jour, frères toujours ». Il faut dire ici que l'archevêque de Lubumbashi, initiateur de ces assises, pour lui, ce forum devait surtout être un moment de dialogue, de vérité, mais enfin de réconciliation entre les communautés vivant dans cette riche province minière du Katanga. Alors, s'agissant des participants, ils étaient plus de 400, principalement des acteurs politiques, tant de l'Union sacrée pour la nation, qui est la plateforme qui soutient Félix Tshisekedi, que de l'opposition, dont le SPC de Joseph Kabila. Et puis, il y avait quelques hommes d'affaires, des chefs coutumiers, des membres de la société civile et même des leaders religieux.
Oui, alors si on a parlé, Denise, de réconciliation, c'est qu'il y a des conflits ou au mieux des tensions au Katanga.
Bien sûr, Juan, les tensions ont opposé des groupes de personnes qui parfois pouvaient aller jusqu'à des actes de violence. Et les causes sont principalement d'ordre politique et économique. Et comme on peut s'imaginer, ces conflits impactent négativement sur les communautés. Et pour l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, les querelles de chapelle politique détournent souvent les acteurs des vrais enjeux que sont la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, et même la lutte pour la bonne gouvernance des ressources naturelles. Alors pour revenir au conflit, le cas emblématique est celui qui a opposé l'ancien chef de l'État Joseph Kabila à Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga depuis environ 7 ans.
Oui, ça faisait 7 ans effectivement que les deux hommes ne s'étaient pas parlé. Quel bilan peut-on dresser en quelques mots de ce forum ?
Alors, à en croire les organisateurs, l'Église catholique a réussi son pari de rapprocher deux frères ennemis, à savoir Joseph Kabila et Moïse Katumbi. La poignée de main à laquelle ont assisté des centaines de personnes ce dimanche est qualifiée pour les partisans de ces deux leaders d'un geste historique et ouvre une nouvelle ère au Katanga. Au-delà de ces deux hommes, Mumbagama, par exemple, un proche de Moïse Katumbi, estime qu'à travers eux, il y aura aussi une réconciliation entre leurs partisans et même, d'après lui, un rapprochement entre les États qui soutiennent d'un côté Joseph Kabila et de l'autre Moïse Katumbi. Mais il faut dire aussi que certains Katangais sont un peu sceptiques par rapport aux résultats de ce forum. Ils attendent voir la mise en application des résolutions. Il y en a eu plusieurs. Les participants ont même ont entrepris comme engagement, par exemple, faire barrage à l'extraction illicite des minerais et au pillage des ressources naturelles. Ils ont aussi recommandé de mettre fin à toutes les milices et d'œuvrer pour l'avènement du fédéralisme dans le pays.
Oui, en tout cas, on verra si la poignée de main entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi aboutira en une sorte d'alliance en vue de la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir dans 18 mois. Pour revenir au Katanga, et on répond à la dernière question de Gabriel, il faut rappeler que depuis 2015, donc, le Katanga est divisé en 4 provinces. Est-ce qu'une réunification est à l'ordre du jour ?
Alors, il faut d'abord préciser que le Katanga n'est pas la seule province de la RDC qui a connu la subdivision administrative. Le découpage territorial est prévu à l'article 2 de la Constitution. Toutefois, Raymond Muyumba Maïla, un des intervenants à ce forum, a souligné que ce découpage a renforcé les divisions entre les communautés qui, il y a peu, appartenaient à une seule province. Aussi, les quatre provinces évoluent à deux vitesses. Il y a d'un côté les provinces considérées comme riches parce que détenant de gros gisements miniers en pleine exploitation, c'est le cas du Haut-Katanga et du Lualaba. Et de l'autre, il y a deux provinces considérées comme pauvres, défavorisées, avec peu d'infrastructures et de ressources financières. Et là, c'est le Haut-Lomami et le Tanganyika. Alors, faut-il penser à la réunification du Katanga, comme Gabriel a voulu le savoir? Ça ne serait possible que si l'on modifie la constitution actuelle. Mais un sénateur, Kaumba Lufunda, qui lors du découpage était directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, estime qu'il est difficile de faire marche arrière. Pour lui, il faut plutôt regarder vers l'avenir et renforcer l'unité et même la solidarité entre les nouvelles provinces issues du Katanga.
Oui, en tout cas, la question de Gabriel a le mérite d'être posée. Vous souhaitez, vous qui nous écoutez, réagir justement. Faut-il réunifier le Katanga ? On en parle, évidemment, si vous le souhaitez, vendredi, dans la libre antenne. Gabriel, à Bukavu, j'espère que vous avez pu entendre toutes les explications. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Merci Denise Maéo. Bonne journée à Lubumbashi. On va repasser au standard avec d'autres questions. On va parler de la crise politique qui secoue la Tunisie. Bonjour Massoma.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
D'accord. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
On vous écoute.
Le président Kais Saied s'est arrogé le plein pouvoir et il entend lui-même choisir ses interlocuteurs pour le dialogue national. Juan, j'aimerais savoir quelle a été la réaction de l'opposition face à cette nouvelle mesure du président tunisien. Et peut-on craindre de nouveaux soulèvements populaires ?
Ouais, c'est une bonne question que vous posez. C'est vrai que depuis le mois de juillet, depuis près d'un an, le président Saïed s'est accaparé tous les pouvoirs. Il a dissous le Parlement, il a changé la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Et voilà qu'il exclut les partis politiques du dialogue national. Bonjour Vincent Gesser.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous êtes spécialiste de la Tunisie. Dialogue national sans les partis politiques, c'est curieux tout de même.
Oui, mais ça s'inscrit tout à fait, je dirais, dans la logique du président Kais Saied, qui fondamentalement, est animé à la fois par, une tendance anti-parti politique. C'est quelqu'un qui n'aime pas les partis politiques. Il considère que les partis politiques font obstacle entre, le président qui incarne la souveraineté populaire et le peuple. Et surtout, il n'aime pas non plus le Parlement. Donc, de ce point de vue-là, ces décisions du président Kais Saied ne sont pas simplement des décisions de circonstance, ce sont des décisions qui s'inscrivent dans un programme que l'on pourrait dire politique et idéologique, créer une sorte de démocratie entre Carthage, le siège de la présidence, et le village tunisien. C'est une sorte de représentation très spécifique de la démocratie, d'un lien direct entre le chef, le président et son peuple.
Et du coup, comment réagit la classe politique ?
Alors, la classe politique, elle est très divisée. Elle était très divisée avant ce qu'on appelle le coup d'État du 25 juillet, ce fameux discours où il s'est arrogé les pleins pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il y a eu très peu de réactions jusqu'à présent de cette classe politique qui est effectivement peu soutenue par le peuple tunisien. Mais en revanche, on s'aperçoit que depuis quelques semaines, face au durcissement, à l'approfondissement de l'autoritarisme et de la personnalisation du pouvoir, un certain nombre de figures de l'opposition tentent de créer un front pour endiguer ou sinon pour répondre au président, notamment une initiative, le fameux Front de salut national, qui serait d'unifier les partis de l'opposition pour au moins protester, contester cette dérive autoritaire qui caractérise le régime tunisien depuis quelques mois.
Alors le président Saïed ne veut pas dialoguer avec la classe politique, il veut dialoguer en revanche avec les organisations, la centrale syndicale, UGTT, l'organisation patronale, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Ordre national des avocats, voilà les quatre organisations autorisées finalement à dialoguer avec lui.
Alors, il faut rappeler que ces quatre organisations avaient déjà reçu le prix Nobel de la paix
en 2015.
Dans le cadre d'un précédent dialogue national. Mais là, il faut dire qu'on n'est plus du tout dans le même contexte, parce que dans la précédente configuration de dialogue, c'est ces organisations qui étaient à l'initiative du dialogue, hein, pour essayer de trouver une issue politique à la crise. Là, c'est le contraire. C'est un dialogue décrété, c'est un dialogue imposé, c'est un dialogue venu du haut et qui, du moins, impose un calendrier. Donc, c'est plutôt un dialogue qui est l'initiative du président. Mmh. C'est un dialogue qui est finalement imposé par le haut et avec des organisations qui sont plus ou moins obligées d'y répondre. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans une configuration où des organisations de la société civile tenteraient de jouer le rôle de médiateur.
Et en deux mots, Vincent Gesser, peut-on s'attendre à un nouveau soulèvement populaire ?
Alors, c'est ça la grosse difficulté. D'abord, ce président a été très populaire au moment d'abord de son élection. Il a été élu à plus de 70% de l'électorat tunisien. C'est un président qui a été aussi populaire au moment du coup d'État. Très peu d'opposition, très peu de manifestations pour contester le coup d'État. Sa popularité aujourd'hui semblerait s'effriter, mais aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est qu'il y a une reprise en main sécuritaire et un peu autoritaire de la société tunisienne. Même s'il y a des protestations, même s'il y a des mouvements sociaux, même s'il y a des contestations, elles sont aujourd'hui très très fortement encadrées par l'appareil sécuritaire. Donc on ne peut plus vraiment mesurer sa popularité dans la mesure où c'est une popularité qui est un peu glacée, un peu figée, et qui, même s'il y a des contestations, en tout cas, les réponses pour l'instant sont essentiellement d'ordre sécuritaire, d'ordre répressif.
Merci Vincent Gesser d'avoir été avec nous, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Massoma, bonne journée à Abidjan. Vous voyez, ça s'est très bien passé, c'était une première pour vous ce matin sur RFI. Édouard, on termine avec vous, bonjour.
Bonjour, bonjour Joël, bonjour à vos nombreux auditeurs, surtout à Zéré Corée, c'est à Guinée Forestière.
Ah oui, Zéré Corée, je sais qu'on nous écoute, ils sont nombreux les auditeurs dans cette ville guinéenne. Vous avez des questions sur l'Afrique face au conflit russo-ukrainien ?
Évidemment, évidemment Joël. Joël, le président sénégalais Macky Sall a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l'Union africaine. Alors la question que je voudrais savoir Joël, l'Union africaine par l'intermédiaire du président Macky Sall peut-elle parler d'une seule voix ? Alors que les pays africains semblent se diviser sur cette question.
Ah, c'est une bonne question que vous posez et on va en débattre tout à l'heure avec les auditeurs. On a contacté pour vous répondre Papi Ibrahima Kane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des relations entre la fondation Open Society Initiative for West Africa et les organes de l'Union africaine. Macky Sall dit vouloir se rendre en Russie et en Ukraine pour porter la voix de l'Afrique. Mais on voit bien que sur ce dossier-là, l'Afrique ne parle pas d'une seule voix.
Au début, oui, l'Afrique ne parlait pas d'une seule voix. Il y avait une division au sein des États dans la gestion de cette crise. Mais de plus en plus, les États africains commencent maintenant, surtout avec les effets de cette crise qui commencent à peser sur certains d'entre eux, commencent à parler d'une seule voix. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Macky Sall va parler aux deux présidents, c'est à la demande expresse des États africains. Il y a eu une réunion qui s'est tenue le 10 mai dernier au niveau de l'UA sur les questions liées au vaccin et à la crise du Covid. Et les États ont demandé que Macky Sall aille parler aux deux présidents pour qu'on mette un terme à cette guerre-là, parce qu'elle est en train de vraiment annihiler tout le travail qui a été fait pour gérer la crise du Covid-19. Donc, de plus en plus, il y a une sorte de volonté commune des États africains d'aller dans une même direction.
Papi Ibrahima Kane, êtes-vous disponible encore dans 10 minutes ?
Oui.
Voilà, je vous pose la question parce qu'Edouard a encore des questions à vous poser. Et puis on va en parler avec tous les auditeurs. Ils sont nombreux à souhaiter réagir justement à la marge de manœuvre du continent africain pour tenter de résoudre ce conflit qui est entré hier dans son quatrième mois. 33 9 693 693 70.